Bonjour à tous. Cette semaine, on brave les mesures de quarantaine direction la Chine. Peut-elle encore viser la première place sur le podium économique mondial?
Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Rocchini.
Des boutiques fermées, des portes d'entrée condamnées et des rues désertes, Wuhan, épicentre de l'épidémie, a toujours des allures de ville fantôme 2 mois après l'apparition du coronavirus. Le Covid-19 a déjà tué près de 2500 personnes dans le pays et pour le président Xi Jinping, il s'agit de la plus grave urgence sanitaire en Chine depuis 1949. Les répercussions sur la deuxième économie mondiale, déjà affaiblie par la guerre commerciale avec les États-Unis, s'annoncent considérables et le monde entier retient son souffle, chaque pays redoutant de voir sa population et son économie contaminée à leur tour. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Le coronavirus va-t-il stopper l'élan de la croissance chinoise? Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Alice Ekman, chercheuse responsable de la Chine et de l'Asie à l'European Union Institute for Security Studies, et Marie-Françoise Renard, économiste, professeure à l'université de Clermont-Auvergne-Cerdy. À 14h50, on retrouvera le journal de l'écho, présenté comme chaque jour par Xavier Martinet.
Un virus peut avoir des conséquences plus puissantes que n'importe quelle action terroriste. Et c'est vrai. Et si le monde ne veut pas se réveiller et considérer ce virus ennemi comme l'ennemi public numéro un, alors je pense que nous ne tirerons pas les leçons qui s'imposent.
Ce virus aura évidemment un impact réel, mais admettons que nous ne soyons pas trop loin du pic. Nous, notre évaluation, c'est que l'impact sur la croissance chinoise sera de l'ordre de 1 point sur l'année, c'est-à-dire un chiffre important, ce qui voudra dire 0,2 points de croissance en moins au niveau mondial et 0,1 point de croissance en moins pour la France.
Vous savez, beaucoup de gens pensent que ça s'en ira en avril avec la chaleur, lorsque la chaleur arrive. Typiquement, ça s'en ira en avril, mais nous sommes en super forme. Nous avons 12 cas, 11 cas confirmés et beaucoup d'entre eux sont en bonne forme maintenant.
Bonjour Alice Ekman et Marie-Françoise Renard.
Bonjour.
Bonjour.
On vient d'entendre dans l'ordre le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, et enfin le président Donald Trump. Alors l'Italie a mis une dizaine de villes en quarantaine et la Corée du Sud, le deuxième plus gros foyer de contamination après la Chine, a décidé de relever au plus haut le niveau d'alerte. L'épidémie est loin d'être enrayée et ça devrait avoir des conséquences humaines bien sûr, mais aussi économiques, Marie-Françoise Renard.
Oui, les conséquences économiques sont forcément très importantes compte tenu du rôle de la Chine aujourd'hui dans l'économie mondiale. C'est 12% des exportations mondiales, 16% du PIB mondial et beaucoup d'entreprises sont dépendantes de la Chine parce que c'est un très grand marché et puis parce que c'est un producteur qui leur fournit des biens qu'elles utilisent après dans leur production. Donc dans les deux canaux de transmission, la crise en Chine a un impact très important sur le reste de l'économie.
Des conséquences économiques d'abord sur la Chine mais qui auront ensuite des répercussions sur l'économie mondiale, Alice Ekman?
Oui, sur l'économie mondiale, on voit déjà des secteurs très touchés, comme le tourisme, y compris le tourisme français, mais bien sûr aussi l'électronique. On a eu le cas d'Apple, mais aussi de son fournisseur Foxconn, qui est également touché aujourd'hui. Il y a aussi le secteur automobile, puisque Wuhan, la province du Hubei, était aussi le fief de la production automobile, avec aussi la présence d'usines, d'entreprises, de firmes étrangères. Et d'autres aussi conséquences pour le transport maritime, le transport aérien, le coût du pétrole, etc., etc. Donc finalement, c'est la mondialisation qui est en question aujourd'hui. En tout cas, c'est la dépendance vis-à-vis du marché chinois qui se pose. Un moment où justement la Chine cherchait à fournir une nouvelle forme de mondialisation dans le cadre de son projet d'une nouvelle route de la soie. Donc finalement, des secteurs importants dans lesquels elle a investi se trouvent aujourd'hui touchés. Alors c'est une situation provisoire. Tout dépendra aussi de la durée de cette épidémie ou de cette pandémie éventuelle. Mais une chose est certaine, beaucoup d'entreprises étrangères se posent la question justement de leur approvisionnement et de l'éventualité de trouver des sources d'approvisionnement secondaires complémentaires. Et cette question se posait déjà avant en fait le développement de l'épidémie. C'est-à-dire déjà avant, le marché chinois devenait un marché coûteux avec beaucoup de délocalisation dans certains secteurs, en tout cas des produits à faible valeur ajoutée vers l'Asie du Sud-Est. Et ce questionnement, à mon mon avis, est renforcée pour certains secteurs aujourd'hui dans le cadre de la crise.
Alors on va voir effectivement comment cette épidémie peut peut-être accélérer une transition qui avait déjà été amorcée en Chine. Mais d'abord, on a beaucoup comparé cette crise du coronavirus à celle du SRAS en 2002-2003. Mais selon Alicia Garcia Herrero, qui est chef économiste de Natixis en Asie, c'est moins au SRAS qu'il faudrait comparer la situation actuelle qu'avec la crise financière de 2008.
Absolument. Ouais, absolument. Je suis d'accord avec ça parce que au moment de la crise du SRAS, la croissance chinoise était tirée par les exportations. Et donc, lorsque l'épidémie a été terminée, la demande mondiale a repris de plus belle et la plupart des contrats ont simplement été reportés et après l'économie a repris. En 2008, c'était différent puisque le modèle chinois avait déjà évolué et les exportations avaient un rôle beaucoup moins important. Aujourd'hui, le gouvernement veut appuyer la croissance principalement sur la consommation et donc les leviers de la croissance chinoise ne sont plus les mêmes. C'est une situation effectivement comparable à celle de 2008 et d'ailleurs dans les mesures que prend le gouvernement, il prend des mesures comparables à celles qu'il avait prises en 2008. Et aujourd'hui, le problème qui va se poser à relativement court terme à la Chine, c'est celui de savoir comment relancer sa demande, sachant que les premiers efforts qui sont faits par le gouvernement visent à aider les entreprises exportatrices, à aider les entreprises chinoises qui travaillent avec l'étranger, justement parce que la Chine ne veut pas trop perdre dans la mondialisation, ni trop remettre en cause ces chaînes de valeur dont on parlait à l'instant, sachant que elle a réussi à beaucoup monter en gamme, qu'elle n'a plus la même place, elle a un poids de plus en plus important dans la mondialisation, mais elle n'a plus la même place parce que elle est montée en gamme, elle ne vend plus les mêmes produits et donc évidemment elle ne veut pas perdre cet avantage.
Mais il y a un certain nombre de secteurs dans lesquels la dépendance à la Chine est particulièrement forte. Je pense en particulier au secteur électronique, qui est l'un des atouts de l'économie chinoise.
Marie-France. Oui, le secteur électronique est le plus important en matière d'exportation. C'est la grosse part des exportations de la Chine et on voit bien que les entreprises à court terme, essayer de trouver des solutions. C'est très difficile à court terme de trouver des solutions. Mais on voit des entreprises qui vont chercher des produits en Chine et puis les emportent dans un autre pays, par exemple au Vietnam, pour les faire assembler au Vietnam. Mais c'est très coûteux de trouver des substituts parce que d'abord, s'ils produisaient en Chine, il y a de nombreuses raisons. Mais déjà, parce que s'ils produisaient en Chine, c'est que le coût était plus faible. Ou bien parce que c'était une filiale d'une entreprise, auquel cas c'est évidemment une relation entre maison mère et filiale. Et ensuite, quand le produit est très spécifique, il est difficile de trouver un substitut. Alors, dans des secteurs comme le textile, c'est pas très grave, on trouve toujours des substituts.
C'est plus compliqué pour
dans
les semi-conducteurs.
Dans des secteurs comme l'électronique, c'est beaucoup plus compliqué.
Alors, c'est intéressant de voir effectivement qu'il y a cette question de la production qui se pose, la question de l'exportation et de la consommation intérieure. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines usines qui réouvrent progressivement, qui avaient fermé, mais ensuite se pose la question du transport des marchandises. Et là, les entreprises parlent d'un cauchemar logistique.
Oui, c'est extrêmement compliqué parce que un certain nombre de villes ont été mises en quarantaine. C'est très difficile parce que certaines entreprises ont commencé à reprendre, mais on voit sur les réseaux sociaux les dirigeants d'entreprises qui disent mais on a produit, on a repris la production, mais on n'a pas de transport pour livrer. Donc c'est un secteur qui est en grande difficulté.
Et pas d'ouvriers pour venir travailler, puisque beaucoup de gens ne viennent pas.
Oui, alors certains ont repris, mais repris progressivement. On estime à 40-50% en moyenne la reprise des entreprises. Du coup, certaines entreprises sont en grande difficulté. Alors le gouvernement a décidé de nationaliser la société HNA, qui est une société de essentiellement de compagnies d'aviation. Elle va vendre Henan Airlines, qui appartient à cette compagnie, aux autres compagnies chinoises, aux trois grandes compagnies chinoises, et elle va se recentrer sur certains secteurs parce que c'est des compagnies qui ont donc des compagnies d'aviation et puis aussi des hôtels, tourisme, etc. Mmh. Ce qui est un secteur particulièrement touché. Et j'ai vu que un des directeurs de l'Académie des sciences sociales de Pékin a publié un papier en disant il faut que les gouvernements locaux arrêtent de bloquer les transports parce qu'évidemment les gouverneurs ont le mot d'ordre de limiter l'épidémie, donc de plutôt faire des quarantaines et de limiter les transports. Et lui dit il faut arrêter de limiter les transports, ça pénalise trop l'activité économique, c'est le plus urgent pour l'instant.
Et puis il y a peut-être une ambiguïté du pouvoir chinois qui à la fois va inciter un certain nombre de personnes à rester chez eux pour éviter la propagation du virus et en même temps réinciter un certain nombre de travailleurs travailleurs, à retourner dans les usines et à faire un effort patriotique, ce sont les termes de Xi Jinping.
Exactement, il y a un certain nombre d'injonctions contradictoires qui sont propres finalement à des crises comme ça, à gérer en urgence au quotidien, c'est jamais simple. Et d'ailleurs, ces injonctions contradictoires et ces ambiguïtés parfois existaient avant même la crise. Par exemple, des objectifs de politique économique contredisent des objectifs de politique étrangère, voire de sécurité. On a de nombreux cas sur le sol chinois. Aujourd'hui, oui, il y a un appel... par exemple, alors je pourrais donner des exemples très spécifiques que je connais bien dans mon domaine. Par exemple, Xi Jinping a appelé à l'internationalisation des centres de recherche chinois, des think tanks chinois. Ça, c'était bien avant l'émergence du coronavirus. D'ailleurs, c'est un sujet qui n'a rien à voir, mais qui est intéressant d'analyser. Et en même temps, dans le cadre de la campagne dite anticorruption et du recadrage disciplinaire, les fonctionnaires chinois, y compris les chercheurs, ont plus de procédures pour pouvoir voyager et être international. Donc, à la fois, finalement, c'est une orientation de politique intérieure contre un autre objectif qui finalement était édicté également par le gouvernement central. On a d'autres exemples à lister, mais aujourd'hui un des exemples liés au coronavirus, c'est en effet l'appel avant tout à la prévention et à la protection sanitaire face au virus, et en même temps au soutien de l'économie, à la réouverture des usines, mais bien sûr la prévention prime, ce qui est normal dans ce contexte-là. Et même on voit bien que même quand des usines ont réouvert, le simple fait qu'un cas a été détecté très vite amène à la fermeture de cette usine qui venait de réouvrir. Donc bien sûr, on a une situation complexe aujourd'hui qui jette un questionnement sur la durée réelle de ce ralentissement économique. Et il faut quand même rappeler aussi deux choses. Avant l'émergence de la crise, la Chine faisait déjà face à un ralentissement de sa croissance qui était structurel, et aussi la Chine faisait face à des tensions commerciales avec les États-Unis. Ça paraît quelque chose d'évident, mais c'est important de le rappeler aujourd'hui, parce que ces tensions étaient et sont toujours commerciales, mais elles sont aussi technologiques. Et tout à l'heure, on parlait d'Apple, de Foxconn, des produits électroniques. Ça plus ça, c'est-à-dire les tensions technologiques plus l'impact du coronavirus sur certaines grandes entreprises, y compris américaines, vont avoir des conséquences sur la réorientation et la restructuration de la production de produits électroniques à long terme, au moment même où la Chine elle-même voulait développer ses propres produits pour être moins dépendante des entreprises et des composants américains, mais aussi européens. Donc à terme, on pourrait voir s'accélérer dans le contexte de cette crise, une fois la période la plus dure passée, finalement une automatisation des chaînes de production dans ce secteur, avec des produits de plus en plus chinois et d'un autre côté des produits de plus en plus américains, européens ou transatlantiques.
Alors on va revenir évidemment sur le ralentissement économique chinois qui effectivement n'a pas attendu le coronavirus pour intervenir, mais d'abord je voudrais vous faire entendre des paroles de PDG d'entreprises étrangères.
Now, consistent with what's going on right now, roughly half.
Au vu de ce qu'il se passe en ce moment, quasiment la moitié de nos magasins et de ceux de nos partenaires en Chine sont temporairement fermés. Et ceux qui ne le sont pas fonctionnent avec des horaires réduits. Il y a donc moins de trafic, et c'est pourquoi nous avons annoncé hier une baisse de nos résultats chinois ce semestre.
Si on regarde au niveau mondial, ça va se chiffrer en milliards et en milliards de dollars. Certaines compagnies qui sont très impliquées, notamment les compagnies asiatiques, qui vont perdre 40-50% de leur trafic, certaines vont être très fragilisées. Il y en a peut-être qui vont même faire faillite à cause de cette crise du coronavirus.
Laissez-moi vous rappeler que la Chine et les commerces dans les lieux de transport sont respectivement nos deuxième et troisième plus gros marchés. Nous nous attendons évidemment à être sévèrement impactés au cours de cette période fiscale, donc de janvier à mars 2020, spécialement en Chine évidemment, et dans les commerces liés au transport, et ce dans toute l'Asie, à cause du déclin du nombre de voyageurs chinois.
On vient d'entendre d'abord le PDG de Nike, John Donahoe, ensuite Xavier Titelman, spécialiste aéronautique, et enfin Alexandre Ricard, le PDG de Pernod Ricard. Ce qui inquiète Marie-Françoise Renard, c'est donc la baisse de la consommation en Chine, mais également à l'étranger, car les touristes chinois se caractérisent par de forts pouvoirs d'achat.
Oui, absolument. Les touristes chinois, c'est un secteur qui se développe beaucoup. Alors, ils voyagent en Chine, mais ils voyagent beaucoup à l'étranger. Et on a observé qu'en France, ils consommaient plus que les autres touristes. Donc, le secteur, si on prend le cas de la France, le secteur de l'hôtellerie est très impacté, le secteur du luxe également, parce que les touristes qui viennent en France aiment bien acheter des produits en France en étant sûr que ça n'est pas des copies, etc., que ce ne sont pas des copies, etc. Donc, le secteur des transports, on l'a dit, mais le secteur du luxe, de l'hôtellerie, est très impacté par la baisse du tourisme chinois et puis par la baisse de la demande en Chine, parce que des secteurs comme la viticulture, donc on a écouté pour Pernod Ricard, qui est très impacté parce que la Chine est une partie importante de son marché, mais c'est vrai aussi pour les viticulteurs qui subissent à la fois la politique commerciale américaine et la crise financière en Chine, et puis pour des entreprises, alors je crois qu'il faut distinguer quand même entre les petites et les moyennes entreprises, des entreprises qui traitent avec la Chine, soit directement en leur exportant des produits, soit en achetant des biens d'équipement et qui sont pénalisées parce qu'elles ne peuvent pas acheter ces biens d'équipement. Alors, les grandes entreprises ont l'habitude de gérer le risque. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas coûteux pour elles. C'est une vraie question. Pour les petites entreprises, c'est
leur existence qui est en jeu.
Voilà. D'où un certain nombre de mesures assez semblables, d'ailleurs, qui seront prises sans doute en Europe, mais en Chine aussi. Il faut bien voir que c'est une question récurrente. Quand il y a eu un tsunami au Japon, quand il y a eu des inondations en Thaïlande, on s'est déjà dit, on est dépendant d'un certain nombre de pays. Est-ce que finalement, ça n'est pas un mauvais choix qui a été fait? Je crois qu'il faut bien voir quand même que pendant des années, cela a permis à des firmes de produire à un coût relativement bas. Cela leur a permis d'avoir des économies d'échelle en augmentant la taille de leur marché, notamment avec l'immense marché chinois. Cela a permis aussi aux consommateurs européens de consommer plus de produits. Alors, je ne veux pas faire l'apologie de la mondialisation, mais il faut bien voir que c'est l'ensemble d'un système qui a fonctionné comme ça, et que maintenant ce qui peut inciter à une réflexion, c'est l'organisation des chaînes de valeur, et je crois que cela devrait poser à nouveau la question de ce que doit être la politique industrielle.
Mais c'est intéressant le fait que ça mette en valeur la Chine comme consommatrice. On connaît davantage la Chine comme l'usine du monde, et aujourd'hui ce qu'on voit, c'est que comme la Chine est le premier importateur de produits pétroliers, et ben le fait qu'il y ait cette épidémie, ça a un impact sur les cours du pétrole et du gaz qui ont largement baissé, Alice Ekman.
Ça nous rappelle que la Chine elle-même dispose de peu d'énergie sur son propre territoire, donc elle importe énormément, et bien sûr il y a des conséquences. Ça nous rappelle aussi, les déclarations de certaines entreprises françaises nous rappellent qu'avant même la crise, l'entreprise française, mais un grand nombre d'entreprises étrangères, faisaient face aussi à des difficultés sur le marché chinois, en termes d'accès au marché, aussi suite à des contraintes au niveau local et central pour faire avancer certains dossiers, notamment dans les secteurs stratégiques. Ça peut être, par exemple, pharmaceutique, même l'automobile, dans une certaine mesure, tout ce qui est commodités, utilities, énergie, etc. Il y avait déjà, au niveau des chambres de commerce, hein, qu'elles soient européennes ou françaises, etc., des analyses partagées pour dire que le marché chinois n'est pas finalement peut-être l'Eldorado que l'on croyait, pour différentes raisons, ralentissement structurel de la croissance, mais aussi des obstacles administratifs, politiques, et une préférence aux champions nationaux dans certains secteurs, de plus en plus marquée sous la présidence de Xi Jinping. Donc, je rappelle ce contexte-là parce que c'était déjà un marché difficile pour plusieurs entreprises qui ne disaient pas forcément à haute voix, notamment l'entreprise du CAC 40, parce qu'elles veulent rester en bon terme avec les autorités, et puis parce que, bon, en termes de communication d'entreprise, il vaut mieux ne pas ébruiter ce constat. Mais nous, chercheurs, on le voyait, et à demi-mot, les critiques étaient de plus en plus fermes, et les inquiétudes vis-à-vis du marché chinois. Doit-on rester sur ce marché, etc.
En même temps, difficile de se passer d'un marché d'un milliard et demi d'habitants.
Oui, mais comme vous le dites aussi, le marché a évolué. Comme on le disait à l'instant, il y a eu aussi un nouveau type de produit qui sort du marché chinois. On n'est plus vraiment dans l'atelier du monde, au final, ou en tout cas, dans l'atelier de produits à forte valeur ajoutée, technologique, mais par exemple, des textiles basiques, les t-shirts sont de plus en plus produits en Asie du Sud-Est, etc. Donc, déjà, il y avait une évolution de ce marché. Il y a eu aussi un ajustement sur l'équivalent du SMIC chinois, du salaire minimum, avec une augmentation suite à des revendications dans différentes provinces. Il faut bien savoir aussi qu'en Chine, il y a des variations en termes de salaire minimum d'une province à l'autre, mais globalement, la tendance était à l'augmentation.
Pour booster la consommation, justement.
Oui, et puis parce que les pays pays n'est plus ce qu'il était il y a 10 ans, il y a 15 ans. Les attentes des ouvriers migrants, etc., étaient différentes. Et puis, le coût de la vie a augmenté. Donc, on est plus dans la même situation que pendant le SRAS, déjà. Et de manière générale, les entreprises étrangères l'ont compris. Donc, il y a à la fois une évolution économique, mais aussi une évolution politique depuis 2013, la présidence de Xi Jinping, qui nous a rappelé que finalement, on était dans une économie qui n'était pas si ouverte que ça, en tout cas pas dans les nombreux secteurs listés comme prioritaires par les autorités chinoises.
Ouverture en demi-teinte, Marie-Françoise Renard.
Oui, justement, comme vient de le rappeler Alice, pour certaines entreprises, c'est difficile, notamment dans des secteurs stratégiques, mais il faut voir aussi que pour d'autres entreprises qui sont bien accueillies par la Chine, parce que ce sont les secteurs que la Chine veut développer, comme dans le domaine de la recherche, c'est très intéressant de s'implanter en Chine, parce que, par exemple, dans le domaine pharmaceutique, on a beaucoup parlé de la création de médicaments en Chine, etc., les coûts de la recherche sont plus faibles qu'en Europe ou aux États-Unis, et les maladies sont à peu près les mêmes. Et donc, c'est d'emblée pour un laboratoire de recherche, je pense à Sanofi ou des laboratoires comme ça, qui sont très implantés en Chine, c'est d'emblée un marché sur lequel on peut avoir des économies d'échelle et sur lequel, financièrement, il est très intéressant de s'implanter, sachant que comme la Chine veut faire des transferts de technologies, eh bien, au contraire, ces entreprises-là, elle va bien les accueillir.
Mais alors justement, ce secteur pharmaceutique, il est extrêmement touché par l'épidémie. La rareté a entraîné un boom des prix.
Oui, absolument. Alors, c'est un des secteurs qui peut être gagnant, entre guillemets, après cette épidémie, parce que, évidemment, le secteur de la pharmacie est un secteur qui est très sollicité actuellement, pour lequel il y a une forte demande. Je crois que ça illustre très bien la question de la dépendance et la question de la stratégie. Pendant longtemps, on ne s'est intéressé pratiquement qu'à la dépendance alimentaire. En disant, il ne faut pas qu'un pays soit alimentairement dépendant du reste du monde, même si la plupart le sont maintenant. Mais dans le passé, on s'est surtout inquiété de cette question. Et puis, on s'est inquiété des questions de sécurité, mais pas vraiment en termes de commerce international. Aujourd'hui, on se rend compte que s'agissant de médicaments, on peut dépendre d'un pays qui, pour X raisons, qui n'ont rien à voir avec la diplomatie, la guerre, etc., eh bien, cette dépendance vis-à-vis de ce pays peut poser de graves problèmes. Or, je crois qu'à partir du moment où on n'envisageait pas de guerre entre grandes puissances, on n'imaginait pas que cette dépendance allait pénaliser les sociétés. Or, des événements comme celui-ci montrent que la dépendance a un coût.
Et ce que j'ai appris, moi, c'est que 80% des principes actifs des médicaments vendus aux États-Unis proviennent de Chine. On a effectivement une dépendance énorme, Alice Ekman, que la menace sanitaire vient bousculer.
Oui, c'est ce qui rend intéressant cette crise, proportion gardée bien sûr, de crise qui reste déplorable, mais sur d'un point de vue d'analyse strictement économique, on savait déjà en contexte de tension commerciale Chine-États-Unis les dépendances de nombreuses entreprises étrangères aux composants électroniques chinois, mais cette crise révèle aussi des dépendances dans d'autres secteurs qu'on connaissait moins en tout cas de l'extérieur, et c'est vrai que déjà, en tout cas Washington et Pékin listaient les secteurs de dépendance, identifiaient sur quoi ils pouvaient peser dans ce rapport très vif et très ferme entre Washington et Pékin. On est dans une tension commerciale, technologique, géostratégique, institutionnelle, enfin prolongée entre les deux pays. Mais cette liste, cette identification de dépendance va aussi se faire de plus en plus au niveau européen, parce que c'est aussi le marché européen qui est dépendant en termes justement de produits pharmaceutiques, de composants électroniques, etc. Donc cette période de mondialisation où on se disait que finalement, voilà, les tensions politiques sont finalement on va dire adoucies par interdépendance économique et que, voilà, par crainte de
commerce.
Par crainte de sanctions économiques, certains pays ne prendraient pas de décisions politiques ou géostratégiques fermes. Je pense que de plus en plus, l'hypothèse d'une bipolarisation, d'une multipolarisation de la mondialisation se pose. Parce que déjà auparavant, on avait une restructuration des chaînes d'approvisionnement ces dernières années dans le contexte d'évolution du marché chinois. Mais de plus en plus, on a une Chine, avant la crise, qui cherchait à devenir une puissance normative, c'est-à-dire à développer ses propres structures logistiques, d'acheminement des marchandises, de plateformes de e-commerce, notamment avec Alibaba, etc. Et en même temps, on a une Europe et des États-Unis qui cherchent aussi à toujours garder la main sur une forme de mondialisation qui est préexistante et que la Chine espère restructurer à son avantage.
Mais est-ce que ces bouleversements ne pourraient pas profiter, par exemple, à l'Asie du Sud-Est ou à l'Inde, Marie-Françoise Renard ?
Alors, pour l'instant, l'Asie du Sud-Est souffre beaucoup de la crise, puisque ce sont les pays partenaires de la Chine.
Ce qu'on pourrait imaginer, c'est une régionalisation des chaînes de production. On a vu que dans les derniers mois, les dernières années, l'Union européenne s'est beaucoup souciée des investissements chinois et de la politique commerciale vis-à-vis de la Chine, puisque la politique commerciale, elle est définie au niveau européen et pas au niveau de chacun des pays. Et donc, il y a un certain nombre de règles qui ont été édictées, qui ne citent pas nommément la Chine, mais qui en fait s'adressent à la Chine, notamment pour demander de la réciprocité. Et donc, il me semble qu'il faudrait profiter de cette occasion pour avoir une réflexion sur une stratégie européenne. On a beaucoup parlé de stratégie européenne en matière de fiscalité, ce qui serait sans doute très pertinent. Mais je crois qu'en matière de politique industrielle, ce serait absolument indispensable, notamment dans un contexte où on voit bien que la politique commerciale de Trump va aussi s'appliquer à l'Europe, que donc un certain nombre de producteurs européens, notamment en matière d'agriculture, auront des difficultés pour continuer leurs exportations au même prix, en tout cas avec les États-Unis, et que donc il faudrait réfléchir à une politique européenne. Je ne sais pas si on peut dire, pour répondre à votre question, que ça correspondrait, que ça bénéficierait à l'Asie du Sud-Est ou à l'Inde, parce que ça voudrait dire qu'on garde le même schéma en se tournant vers d'autres pays qui ont quand même des spécialisations tout à fait différentes. La spécialisation de l'Inde n'est pas celle de la Chine.
Ce qui est sûr, c'est que la Chine se trouve à un moment de son histoire économique où de nouveaux choix doivent être faits et de nouveaux bouleversements sont à venir. On en parle dans un instant.
France Culture. Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Roquigny.
Chanteuse Björk sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Alice Ekman et Marie-Françoise Renard sont toujours avec nous pour parler du coronavirus et de son impact sur l'économie chinoise. Une économie qui, comme on l'a dit, avait déjà commencé à marquer le pas avant le début de l'épidémie. Comment est-ce qu'on explique ce ralentissement chinois, Marie-Françoise
Renard ? Alors, ce ralentissement, il a plusieurs causes. La principale, c'est la crise de 2008. La crise de 2008 a vraiment été extrêmement difficile pour l'économie chinoise parce que la demande mondiale a ralenti, que l'économie était encore dépendante de cette demande et qu'il se trouvait que c'est une période où il devait y avoir un certain nombre de réformes mises en place par le gouvernement chinois et qu'au lieu de mettre en place ces réformes, il a dû répondre à la crise en faisant un plan de stimulation, ce qu'il va faire aujourd'hui à nouveau.
D'où un endettement très fort.
D'où un endettement très fort de la part des gouvernements locaux et le recul de certaines réformes, elles ont été repoussées. Or, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu similaire. Le gouvernement a annoncé hier, quelque chose comme ça, un grand plan de stimulation sur les infrastructures, toujours des dépenses d'infrastructures, un certain nombre de dépenses pour soutenir l'économie, ce qui veut dire que il faut bien voir entre les lignes que cet effort il va être demandé aux gouvernements locaux. Or, le gouvernement central avait commencé à restructurer la dette des gouvernements locaux. Donc là, on va accroître à nouveau la dette et faire des investissements en termes d'infrastructures dont on peut espérer qu'ils sont utiles, mais dont on n'est pas complètement sûr encore de cette utilité.
Et on ne sait pas si ces mesures seront suffisantes. Et aussi le fait que la Banque centrale chinoise, par exemple, assouplit le coût de financement des banques pour qu'elles accordent davantage de crédit.
Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises parce que les PME doivent continuer à payer, enfin toutes les entreprises doivent continuer à payer les salaires. Donc pour les PME, c'est difficile. Donc il y a un grand nombre de mesures, une vingtaine de mesures qui ont été proposées pour diminuer les taux d'intérêt, pour ne pas réclamer des dettes, des impôts, etc. Donc un tas de facilités qui ont été proposées pour les entreprises. Il est très difficile de savoir quel sera l'impact de cette crise puisqu'on ne sait pas quand elle va se terminer. Mais on peut penser que ces mesures vont être efficaces à court terme. Il y a néanmoins un danger. C'est que, je vous disais tout à l'heure, un des directeurs de l'Académie des sciences sociales a dit il ne faut pas penser à la dette, il ne faut pas penser à l'inflation. Tout ça, on laisse tomber. Ce qui compte, c'est de relancer l'économie et puis on verra après. Et donc, ce qu'on risque de voir après, cette relance, qui est sans doute bénéfique. Je pense qu'il faut faire de la relance, on n'a pas le choix. Le danger, c'est que les réformes vont à nouveau être repoussées et qu'on va alourdir la dette.
Ce qu'on voit quand même, c'est ce qui est intéressant à souligner sans doute, c'est le rôle de l'État dans l'économie, le fait que le pouvoir central soit aussi présent dans les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, ça lui donne peut-être une marge de manœuvre plus importante, Alice Ekman, pour réagir à cette crise.
Je ne sais pas aujourd'hui si c'est une bonne chose que l'État soit si présent, mais une chose est certaine, c'est cette tendance depuis 2013 du renforcement du rôle de l'État, mais aussi du parti dans les entreprises. Parce que souvent, on indique que oui, regardez la part importante des entreprises d'État sur l'ensemble des entreprises du pays qui restent majoritaires, regardez le poids des revenus générés par ces entreprises, regardez les secteurs stratégiques qu'elles occupent. Certes, mais en fait, on oublie aussi que sous Xi Jinping, le rôle du parti a été renforcé dans les entreprises d'État, mais aussi de plus en plus d'entreprises privées ont été appelées à créer des cellules du parti en leur sein. Donc ça, c'est un développement important, c'est-à-dire qu'indépendamment de la proportion des entreprises d'État sur l'ensemble d'entreprises du pays, un nombre croissant de cellules du parti, entreprises d'État ou entreprises privées, existe aujourd'hui, en tout cas est observable, et ce nombre augmente. On a souvent voulu peut-être penser que l'économie chinoise s'ouvrait depuis Deng Xiaoping. C'est vrai qu'elle s'est ouverte depuis 78, clairement, il y a eu un avant et un après Deng Xiaoping, et puis sous Jiang Zemin, les entrepreneurs ont pu devenir membres du parti. Donc il y a vraiment eu une certaine adaptation et évolution du parti avec la diversification de la population chinoise et le développement de l'entrepreneuriat privé. Mais aujourd'hui, on pourrait se demander si on ne revient pas en arrière. Là, je dis aujourd'hui, depuis 2013, hein, ces 7 dernières années. Peut-être même avec un mouvement comparable à celui de la NEP sous Lénine, qui disait finalement qu'il fallait, compte tenu de l'état déplorable de l'économie, il fallait ouvrir ponctuellement, mais sur une durée limitée, en tout cas entreprendre des réformes qui n'étaient pas celles traditionnellement mises en place par un régime socialiste, un système socialiste, ponctuellement, pour pouvoir sortir de la pauvreté, mais ensuite, quitte à mieux revenir dans le droit chemin du socialisme.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'à terme, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'économie chinoise.
Ce que je veux dire, c'est que déjà avant l'émergence de l'épidémie de coronavirus, la Chine renforçait le poids de l'État et du parti dans son économie et se posait la question de la voie du socialisme, telle qu'elle est déclarée par les communications de Xi Jinping et de dirigeants chinois aujourd'hui. Donc il y a eu un renforcement rhétorique, mais aussi institutionnel fort pour renforcer la planification, la présence des cellules du parti, etc. Et donc, cette crise pourrait, à mon avis, ne faire que consolider cette tendance
accélérer ce processus.
Oui, en tout cas, c'est-à-dire que non seulement il faut maintenir un État et un parti fort dans l'économie, mais vous voyez bien, pour faire face aux crises, cette présence est forte. Alors moi, je ne porte pas de jugement valeur là-dessus, je pense juste que c'est une tendance générale et je ne pense pas que la crise va interroger cette tendance générale, va plutôt la confirmer.
Marie-Françoise Renard.
Oui, il ne faut pas oublier que ce sont toujours les États
qui compense les effets des crises. Après 2008, y compris dans des pays, alors en Chine, l'État est particulièrement puissant et le Parti communiste est particulièrement puissant et renforcé. Mais dans les pays comme les États-Unis ou les pays d'Europe, on a bien vu en 2008 que ce sont les États qui ont eu la charge de compenser les crises, de racheter les dettes, etc.
Notamment à travers l'action des banques centrales.
Absolument. Et donc, on voit bien que quand il y a des crises aussi importantes, même dans des économies de marché, c'est l'État qui va intervenir.
Ce qui est sûr, c'est que la Chine joue gros aujourd'hui en termes d'image. Est-ce que l'épidémie ne vient pas briser un élan à Alice Ekman, alors que le pays tente depuis plusieurs années de se hisser aux yeux du monde au rang des pays les plus développés?
Ce qui est sûr, c'est que l'image internationale de la Chine et du pays est très importante pour le gouvernement central. Ils en ont beaucoup investi dans leur communication internationale, dans des agences de relations publiques pour adoucir ou mettre en valeur certains avantages du système chinois, parce qu'on entre aussi dans une guerre de communication depuis plusieurs années qui vante le modèle chinois, ou en tout cas l'efficacité de la solution chinoise, selon les termes officiels, par rapport à d'autres systèmes politiques et économiques qui, selon eux, se moins efficace. En tout cas, c'est présenté comme tel dans un nombre croissant de médias chinois internationaux, mais aussi dans un nombre croissant de conférences internationales, aussi par le biais de programmes de formation offerts à des fonctionnaires et ingénieurs de pays en développement. Donc, il y avait ce contexte actuel-là. Aujourd'hui, en temps de crise, la Chine, finalement, communique dans la même lignée, même si c'est aussi dans une situation de tension avec une réponse œil pour œil, dent pour dent, lorsque des critiques sont émises sur la manière dont la Chine a géré la crise. Mais aujourd'hui, la Chine, dans un contexte de crise, souligne l'efficacité de son système, par exemple l'utilisation de drones ou des moyens de contrôle et de croisement des données et des informations avec finalement une société hyper connectée et un État qui utiliserait ces outils.
Alors, je voudrais vous faire entendre simplement un petit extrait.
Grâce à la réactivité de l'État, les manifestations sont sur le point d'être maîtrisées. Et elle devrait cesser très rapidement. Chers concitoyens, ne vous laissez pas influencer par les rumeurs qui courent. Elles sont sans fondement. Je vous prie donc de rester en sécurité à votre domicile. Nous devons rester sereins et faire confiance à l'État pour rassembler toutes nos forces et surmonter cette situation. Votre sécurité ne sera pas menacée.
Un extrait du film de Yeon Sang-ho, Dernier train pour Busan, qui raconte une épidémie un peu particulière qui frappe la Corée du Sud, particulière car elle transforme ceux qui sont contaminés en zombies agressifs. Mais ce qui est intéressant avec cet extrait, c'est l'enjeu de l'information qui circule et le rôle de l'État face à une crise de ce genre, qui sont des questions qui sont soulevées et qui sont au premier plan dans l'épidémie actuelle, Alice Ekman.
Oui, le rôle de la communication est important. Et il faut aussi se rappeler qu'en Chine, sur tous les sujets considérés sujets de crise ou des sujets sensibles, il y a des éléments de langage distillés par finalement les organes de propagande chinois ou le département de la publicité qui sont repris par le ministère des Affaires étrangères et son porte-parole, mais aussi par les chercheurs, par les journalistes, etc. Et c'est le cas aujourd'hui aussi dans cette crise.
Et ceux qui auraient une version qui serait différente peuvent être amenés à être expulsés. Je pense en particulier au journaliste du Wall Street Journal qui aurait écrit des propos racistes envers les Chinois, et à ce titre ils ont été expulsés, mais certains disent que c'est parce qu'ils critiquent les infractions aux droits de l'homme.
Il y a le cas des étrangers, par exemple des journalistes étrangers qui sont considérés comme des forces occidentales hostiles, parce qu'il y a aussi une rhétorique anti-occidentale assez forte actuellement au sein du parti, mais il y a aussi des citoyens chinois qui sont considérés dans ce cas-là comme des traîtres qui auraient été manipulés par des forces occidentales hostiles et qui trahiraient finalement le bien du pays et l'unité nationale. Donc on est vraiment dans une communication assez dure, qui ne touche pas d'ailleurs que le coronavirus. Quand il y avait des tensions à Hong Kong, on était aussi dans cette rhétorique assez forte.
Alors même que la Chine dit que par rapport au SRAS, aujourd'hui, c'est l'heure de la transparence, il y a ce vœu de transparence qui est fait, Marie-Françoise Renard.
Oui, alors certainement que la transparence, elle est beaucoup plus grande qu'au moment du SRAS. Pour des tas de raisons, parce que la société chinoise est différente, parce que la Chine veut montrer que c'est un pays responsable, responsable. Depuis que Xi Jinping est au pouvoir, on l'a vu lors de ses discours à Davos, etc., il veut montrer qu'il est un président responsable. Aussi parce que les Chinois sont extrêmement actifs sur les réseaux sociaux, et même si c'est contrôlé, on ne peut pas tout contrôler. Donc il n'est plus du tout question de cloisonner et de refermer l'information comme ça a été le cas par le passé. Ce qui n'empêche pas la propagande. Et déjà, avant cette épidémie, il était recommandé aux chercheurs de donner une image positive de la Chine. C'est-à-dire que on n'essayait pas d'orienter leurs recherches en disant « vous travaillez sur tel sujet précisément », mais on les incitait à donner une vision plutôt positive. On leur a proposé des cycles de formation. Alors, qui dit cycle de formation pour des chercheurs en Chine, c'est quand même pour leur expliquer ce qu'il faut dire. Et ce qui est intéressant, c'est que ces mêmes chercheurs, souvent, sont invités à venir expliquer au gouvernement ce qu'il en est dans la réalité. Parce que le gouvernement, il a besoin de savoir ce qui se passe en vrai dans l'économie. Mais officiellement, on en donne quand même une version positive.
Et alors, dans ce contexte, la fermeture, par exemple, de magasins IKEA ou de McDonald's peut être interprétée comme un signal de défiance envoyé à la Chine. Ça renvoie l'idée que peut-être Pékin ne serait pas capable de maîtriser l'épidémie, Li Sekman.
En tout cas, oui, il y a une perception telle, en tout cas quand les États-Unis ont pris des mesures pour fermer, leur territoire aux ressortissants chinois en provenance du territoire chinois, oui, il y a eu en tout cas une perception telle de côté chinois de dire, mais voilà, vous pensez qu'on n'est pas capable de gérer la crise, qu'on n'est pas responsable, c'est une mesure hostile, etc. Mais dans cette communication, il y a aussi un contexte géostratégique préexistant et des réponses qui varient ou des perceptions communiquées qui varient selon l'état des rapports de force entre pays. Par exemple, les tensions Chine-États-Unis se retrouvent dans la communication sur le coronavirus aujourd'hui. Le rapprochement entre la Chine et la Russie se retrouve aussi dans la communication sur le virus, puisque la Russie a également pris des mesures pour fermer en partie son territoire. Ceci dit, la Chine n'a pas du tout manifesté de mécontentement face à cette mesure et a rappelé que la Russie soutient la Chine dans son combat, que Vladimir Poutine a accueilli a soutenu en termes élogieux l'action de Xi Jinping, etc. Donc il y a des rapports de force géostratégiques. Au même moment, le Pakistan, par exemple, notamment ses représentants locaux, affirme son soutien à la Chine. Pakistan qui est un partenaire important de la Chine, en tout cas les deux pays sont proches. Donc on a vraiment justement une communication qui est analysée en fonction des rapports de force existants.
Mais les États-Unis auraient pu davantage souffler sur les braises. Ils n'ont pas tellement profité dans leur communication de la faiblesse des Chinois.
Bien sûr, mais les États-Unis ont besoin de la Chine aussi. C'est un partenaire commercial de premier plan. Et Donald Trump n'a pas intérêt à ce que la Chine soit trop affaiblie. Il veut être maître vis-à-vis de la Chine et imposer un certain nombre de mesures, mais il n'a pas intérêt à ce que la Chine soit trop affaiblie.
Alors aujourd'hui, on a effectivement une volonté de la Chine de prouver sa modernité. Et ça se voit d'une certaine façon. La crise, l'épidémie lui en donne l'occasion. Par exemple, la Chine a construit un hôpital en quelques jours sous l'œil des caméras. Elle profite aussi de cette crise pour prouver des choses.
Ça, c'est un hôpital de campagne. On a fait appel à l'armée, etc. Mais on voit, par exemple, pour la reconnaissance faciale, que dans un premier temps, on a dit avec les masques, on peut pas faire de reconnaissance faciale. Et puis maintenant, les entreprises qui ont mis ça en place disent mais on a trouvé le moyen de pouvoir quand même faire de la reconnaissance faciale, malgré les masques. On fait faire des livraisons par des robots. Les cours à l'université ou dans les écoles ont lieu en ligne. Le commerce, le e-commerce s'est développé. Alors une entreprise comme Tencent, par exemple, va gagner beaucoup avec cette crise alors que Alibaba perd au contraire. Mais donc, cette utilisation de nouvelles technologies et notamment tout ce qui est lié à Internet qui était très développé en Chine permet à la Chine de dire, vous voyez, grâce à ces nouvelles technologies, finalement, cela nous permet de lutter plus efficacement en cas de crise.
Mais ce qu'il faut bien expliquer, c'est que les paiements mobiles étaient déjà très courants en Chine avant, même si aujourd'hui, il y a peut-être une méfiance accrue avec le virus à l'égard de la monnaie physique.
Alors, il y a peu d'utilisation, enfin beaucoup moins d'utilisation de la monnaie physique en Chine. Les cartes bleues n'ont jamais bien fonctionné en Chine pour diverses raisons. Et donc, les paiements avec le code sur le téléphone,
Amazon, avec Alipay, etc. Ce paiement est très répandu depuis déjà pas mal de temps, et il arrive très souvent dans un restaurant de Pékin, par exemple, qu'on refuse l'argent liquide. Donc c'est déjà un système qui était extrêmement développé. Ce qui va plus se développer, c'est les achats en ligne, parce que les gens vont moins se déplacer. Néanmoins, ces achats en ligne sont pénalisés par les difficultés de transport et de livraison. En revanche, une entreprise comme Tencent, qui fait des jeux en ligne, des pubs en ligne, des jeux vidéo, etc.
Alors ça a explosé.
A profité au contraire de cette crise, puisque les gens restent chez eux et peuvent utiliser ça abondamment. Dans tous les cas, il s'agit effectivement d'utilisation de technologies nouvelles qui permettent à la Chine de montrer un visage moderne.
On voit effectivement que cette société très connectée aujourd'hui est encore poussée dans ce processus vers toujours plus de numérique, Li Sekman.
Oui, déjà en 2013, Xi Jinping déclarait qu'il voulait promouvoir un marxisme en accord avec son temps, un marxisme qui utilise de nouvelles technologies, un marxisme 2.0, en tout cas connecté, etc. Ça c'est pas anodin, parce qu'au-delà des communications, il a aussi renforcé l'investissement en nouvelles technologies qui sont considérées par le parti comme un outil à double tranchant, mais aussi avec des penchants positifs pour le maintien du parti au pouvoir, pour l'anticipation des mouvements sociaux et des contestations, pour le mapping très détaillé des attentes en fonction des provinces et des districts, et puis aussi un parti qui met en place un système de crédit social qui est encore à état de test en 2020, même s'il existe dans certaines provinces.
C'est-à-dire qu'on vous attribue une note en fonction de vos comportements sociaux ?
Oui, différents comportements en ligne, notamment de consommation principalement, mais pas uniquement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le contexte de la crise du coronavirus, certains éléments de comportement sont aussi pris en compte dans des provinces où le système est testé. Pour être plus spécifique, c'est-à-dire que par exemple, si vous aviez menti sur votre itinéraire de voyage auprès des autorités, ben vous aurez des points moins dans certains districts ou certaines provinces qui testent le système. À l'inverse, si vous faites partie du personnel médical et si vous êtes engagé dans la lutte contre le virus, vous aurez des points en plus. Donc on voit bien que finalement, la crise du coronavirus renforce ou accélère les tendances existantes, qu'elles soient économiques, politiques ou technologiques. Et c'est intéressant à noter ce développement et sur des cas très concrets, en sachant aussi qu'actuellement, la Chine a investi dans ce qu'elle appelle des smart cities. Hein. Depuis 2013, elle a le plan de développer près de 500 villes dites connectées sur son territoire. Elle a vocation non seulement à développer ses villes sur son territoire, mais aussi à exporter les technologies qu'elle a développées pour proposer à d'autres villes, que ce soit en Éthiopie, en Arabie Saoudite ou en Asie du Sud-Est, de s'équiper de technologies de reconnaissance faciale, d'analyse du big data, de vidéos de caméras surveillance, etc., qui à terme pourrait développer des villes, une nouvelle forme de gestion urbaine sur le modèle des villes chinoises. On n'y est pas encore, mais cette tendance pourrait s'accélérer. En tout cas, la Chine espère, planifié au départ, mais dans le contexte de crise, elle souligne les avantages de ses capacités technologiques qu'elle souhaite exporter notamment.
Effectivement, des nouvelles technologies qui permettent un quadrillage et une surveillance qui s'est largement développée.
Maintenant, chez moi, dans ma ville natale, il est interdit de se balader dans la rue pour certaines copropriétés où on a identifié les cas confirmés. On a même bloqué les escaliers pour éviter tout contact possible avec le virus. On fait la liste de courses tous les jours en ligne et livrée en bas du bâtiment. On interdit toutes les circulations des voitures privées, sauf avec une autorisation. C'est très difficile d'obtenir. Pour la carte d'identité nationale chinoise, la province du Hubei, on commence par le numéro 42. C'est le cas pour moi. Donc mes parents, ils ont reçu les appels plusieurs fois du commissariat local pour leur demander où j'étais. Je crois que tout le monde est très nerveux.
Le témoignage d'une jeune chinoise originaire du Hubei, donc le berceau du coronavirus. Est-ce que ce témoignage illustre pour vous, Li Sekman, la capacité de réaction et de surveillance des autorités chinoises qui s'est renforcée avec Xi Jinping ?
Oui, enfin, c'est un exemple parmi d'autres, on va dire. On pouvait déjà trouver des exemples comme celui qui est évoqué actuellement, précédemment, parce que la Chine double, en fait, elle a deux moyens de développer un maillage géographique de surveillance, c'est-à-dire les moyens humains et les moyens technologiques. Les équivalents de comités de quartier existent toujours en Chine, ils n'ont pas disparu. Donc il y a des surveillances humaines, hein, des volontaires des comités de quartier, souvent membres du Parti communiste, sont là pour surveiller les entrées et les sorties dans certaines résidences, voir ce qu'ils se trament éventuellement. Il y a aussi des chengguan, c'est-à-dire des surveillants de rue qui permettent aussi de surveiller, d'identifier les mouvements considérés comme suspects. Et tout cela combiné par un renforcement du maillage de caméras de vidéosurveillance avec une dimension intelligence faciale et aussi, on pourrait dire ce n'est pas uniquement en Chine, mais en Chine la particularité c'est déjà les avancées technologiques, hein, parce que la Chine a aujourd'hui des moyens technologiques forts et ses propres produits de caméras de reconnaissance faciale et d'analyse, mais aussi c'est le fort lien entre gouvernement et entreprises privées, c'est-à-dire qu'entreprises privées communiquent un grand nombre de données aux services de police qui ensuite peuvent les traiter, par exemple, en les connectant avec des équivalents de Google Glass, hein, des lunettes connectées qui permettent en fait de scanner, par exemple, un passage piéton, un certain nombre d'individus et de croiser ces informations via la reconnaissance faciale à leur fiche de police éventuelle ou à certaines données déjà pré-entrées.
Marie-Françoise Renard.
Oui, je crois que ça illustre aussi la capacité, l'existence en Chine de ces processus de surveillance et parfois de délation. Quand la politique anticorruption a été mise en place, les conseils qui ont été donnés, c'est de dire à la population, de dire, si vous voyez quelqu'un qui consomme exagérément tel ou tel produit, il faut envoyer un mail au service de sécurité intérieure pour dire qu'il y a quelque chose d'étrange. Et là, on voit renaître d'une certaine façon quelque chose qui n'avait pas complètement disparu, mais qui était moins mis en valeur, qui est de dire, finalement, il faut qu'on soit responsable, et les Chinois eux-mêmes, on a vu aussi sur les réseaux sociaux des Chinois qui eux-mêmes vont intervenir vis-à-vis de leurs compatriotes s'ils estiment que leur comportement n'est pas assez raisonnable vis-à-vis de la lutte contre cette épidémie.
Est-ce qu'il se joue ici, ce n'est pas aussi l'avenir de Xi Jinping, est-ce qu'il peut être fragilisé par l'épidémie? Est-ce que ça constitue un test pour le pouvoir aujourd'hui, Alice Eichmann?
Moi, je tente à être prudente face à cette question parce qu'au début, oui, il y avait des hauts et des bas avec aussi une période aussi de critique face au cas de Li Wenliang qui a mis une grande part de la population et à un moment...
Le médecin de 30 ans qui est décédé ans, voilà. Suite à l'infection.
Voilà, et qui avait dans un premier temps été réprimandé pour avoir identifié l'émergence avec d'autres collègues d'un virus. Il ne faut pas sous-estimer le poids de la censure mais aussi la solidité du parti et son maillage, sa structuration, même dans l'hôpital temporaire qui a été créé à Wuhan, une branche du parti a été créée. Donc le parti est partout, il est là pour distiller ses éléments de langage, il est là aussi pour surveiller. Et donc dans ce contexte-là, pour moi, il faut pas tirer des conclusions hâtives sur la faiblesse du régime actuel.
Et peut-être tant qu'il parvient à maintenir l'économie, précisément Marie-Françoise Renard, il ne devrait pas y avoir de contestation.
Absolument. Je pense qu'il ne faut pas avoir une vision occidentale de cette situation, que la plupart des Chinois ont confiance dans le Parti communiste tant que l'économie leur permet d'améliorer leur niveau de vie, et puis qu'il n'y a pas vraiment de solution alternative crédible aujourd'hui. Et je crois qu'il y a une vision très occidentale qui consiste à dire finalement on va se rendre compte qu'il faut revenir parce qu'il n'y en a jamais eu, mais qu'il faut instaurer un système démocratique, etc., parce que c'est notre point de vue. Mais tant que le niveau de vie des Chinois est maintenu, je pense qu'ils gardent leur confiance dans le Parti communiste.
Et c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet et son journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Un accord commercial global entre l'Europe et le Royaume-Uni d'ici la fin de l'année, pas sûr, déclarait Emmanuel Macron samedi. Les enchères montent avant les négociations en mars, mais qui a vraiment l'avantage?
Bien, une chose est sûre, c'est que les positions ont été vivement soulignées ces derniers jours. Hier encore, Londres reprochait ouvertement à l'Union d'être paralysée par l'indécision. Et puis surtout, les buts semblent difficilement compatibles, puisque le gouvernement de Boris Johnson rejette la réglementation européenne serrée et préférerait un accord de libre-échange de type Canada ou à défaut les règles de l'OMC avec certains droits de douane comme c'est le cas de l'Union européenne avec l'Australie. L'Union européenne, elle, veut un accord sur l'accès aux zones de pêche avant tout accord commercial et puis l'équité dans les règles. Alors le Royaume-Uni qui envoie environ 50% de ses exportations vers l'Europe pourrait paraître isolé, voire désavantagé, mais c'est le contraire, soutient en tout cas Stéphane Madol, professeur d'économiste à l'INSEC HEIP.
Moi, je pense que le risque du dumping est réel. Alors, est-ce que le Royaume-Uni pourra imposer un accord? Je ne pense pas qu'il pourra imposer un accord. Mais la négociation sera très difficile. Et la négociation va s'établir sur quelques secteurs, sur la pêche, peut-être la libre circulation des personnes, et sur quelques produits. Mais je ne vois pas de possibilité d'avoir un accord global. Même si Boris Johnson dit qu'il veut un accord global dans l'année qui suit, bon, actuellement, il jouit d'une situation où il est pratiquement en libre-échange avec l'Union européenne, et donc il a la possibilité de faire traîner après d'autres négociations dans le temps et en continuant à bénéficier de cet avantage du libre-échange. Quand on regarde le commerce extérieur, il est plutôt au désavantage des Britanniques dans le sens où les exportations britanniques sont beaucoup plus faibles que les importations britanniques de produits européens. Et donc l'Europe communautaire a plus à perdre que le Royaume-Uni. Sur le plan financier, bon, bah, pour l'instant, la livre, effectivement, s'est un tout petit peu dévaluée de 10 à 15%, mais reste une monnaie quand même de référence sur le plan international.
Face à cela, la stratégie de l'Union européenne sera mieux connue demain. Les dirigeants doivent valider le mandat de négociation de Michel Barnier.
Oui, un mandat qui avait été renforcé il y a une semaine en élargissant les domaines de jeux équitables, hein, justement, avec les mêmes règles, et même en incluant une demande de restitution de biens culturels, les frises du Parthénon au British Museum. Alors, moyen de pression ou parasite dans les négociations, c'est à voir. De son côté, en tout cas, le Royaume-Uni s'est activé. Depuis 2017, il a signé une vingtaine d'accords de libre-échange et obtenu des partenariats préférentiels avec le Commonwealth.
On passe au brève, un autre gros accord commercial attendu ou hypothétique, c'est celui entre New Delhi et Washington. Donald Trump est aujourd'hui en Inde.
Oui, c'est même un accord fantastique que promet le président américain dans la même rhétorique que pour décrire l'accord avec la Chine. Là encore, Donald Trump entend réduire le déficit commercial, c'est 25 milliards de dollars. Mais rien ne dit que la bataille du America First contre le Make in India, comme elle est appelée par certains, prenne fin demain. Les sujets de contentieux, agriculture, santé, numérique sont trop nombreux. Et pour l'instant, la rencontre avec Narendra Modi se solde par un contrat militaire de 3 milliards de dollars en faveur des États-Unis et l'espoir pour les travailleurs indiens d'un assouplissement des visas américains.
États-Unis toujours, une étude intéressante sur les soutiens de Wall Street aux candidats pour la présidentielle et sans surprise.
Sans surprise, oui, puisque c'est Bernie Sanders qui a reçu le moins de soutien financier, 1 700 000 dollars sur 108 millions provenant de la finance, assurance et immobilier. En comparaison, Pete Buttigieg en reçoit 4 400 000, Donald Trump 2 700 000. Sanders, jugé par un financier plus dangereux que le coronavirus pour Wall Street, même si, selon l'AFP, et là c'est intéressant, des milliers de salariés de Wall Street et même des gestionnaires de fonds n'ont pas tous le point de vue des grands financiers, mais ils seraient muselés, selon l'un d'eux.
Et les bourses mondiales qui s'effondrent justement en attente de plus de nouvelles sur le coronavirus.
Oui, une nouvelle fois, des chutes de 3 à 4% dans toute l'Europe. Même chose pour les cours du pétrole. La conséquence donc de ce nouveau seuil de propagation du coronavirus franchi hier, 231 contaminations en 24 heures. Donc une volatilité des marchés. La dernière chute des bourses il y a quelques jours avait cessé en fait quand la courbe de contamination s'était aplatie.
Merci beaucoup Xavier Martinet. Une réaction, Marie-Françoise Renard, Alice Ekman sur ce journal de l'Écho.
Je crois que l'Inde veut le soutien de Trump vis-à-vis de la Chine et essaye de contrebalancer un peu le poids de la Chine dans la région et aimerait bien avoir des relations apaisées avec les États-Unis et un peu meilleures que la Chine qui reste le partenaire privilégié des États-Unis quand même.
Mais et ça là, intervient à un moment où la Chine est affaiblie, oui. Alice Ekman.
Et puis il y a le panorama géostratégique puisqu'il y a ce concept d'Indo-Pacifique qui inclut l'Inde, les États-Unis, l'Australie, mais aussi la France parmi d'autres partenaires et les États-Unis qui essaient de développer leurs relations militaires, leur partenariat politique et à terme aussi en termes d'infrastructures économiques. Donc on a différents rapports de force avec une alliance américaine qui tente de se renouveler par différents biais, notamment avec l'impulsion du Japon qui était mécontent du retrait du Trans-Pacific Partnership, d'accord de libre-échange en Asie Pacifique il y a quelques années, qui essaie de le revigorer, et puis de l'autre côté, la Chine, qui essaie de développer ce qu'elle appelle son cercle de pays amis, en brouillant finalement un peu les pistes de l'Alliance, et en proposant ses initiatives, dont les nouvelles routes de la soie, dont la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, dont le forum des routes de la soie, etc., à un nombre croissant de pays, y compris les alliés des États-Unis. Donc,
nouvelle
grande confusion.
Nouvelle route de la soie dont on reparlera demain. Merci beaucoup, Xavier Martinet. Votre journal de l'écho est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast.
Tête à demi penchée, faisant une moue dubitative, rêve dans le semi-remorque. Les fous prennent tous les risques, les fluves de l'arène me fait bouillir. J'ai le cœur au combat même en temps de crise. Les effets de l'adrénaline me défendent mes affaires câlines. J'ai pas idée combien l'accès au palier va me faire pâlir de vertige. Mais ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. Les vertiges. Donc ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. À l'horizontale, je te propose qu'on...
À l'horizontale, le dernier titre d'Aloïse Sauvage. Merci beaucoup Alice Ekman et Marie-Françoise Renard de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages. Alice Ekman, Rouge Vif, l'idéal communiste chinois, paru ce mois-ci aux éditions de l'Observatoire. Marie-Françoise Renard, l'économie de la Chine, paru à la Découverte. Un grand merci à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Isot Sicar, Elia Tovin, Paloma Soria Brown et Alain de Recourt. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique aujourd'hui, Thibaut Nassimbert.